poste Mai de Résistance Radio Galère 88.4 ainsi que Radio Mono à Châlons-en-Champagne. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur le Ku Klux Klan. C'est la troisième et dernière partie. Donc, dans une première partie, il y a trois semaines, on avait commencé par évoquer l'histoire la plus ancienne du Ku Klux Klan avec sa genèse et sa naissance. Aujourd'hui, dans une deuxième partie, la semaine dernière, ça a été rediffusé, donc ça a été les 15 jours précédents, l'émission portait sur le Ku Klux Klan dans la période dite moderne ou contemporaine, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, 90. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du Ku Klux Klan d'une manière un petit peu différente, d'une manière un peu intemporelle, en évoquant quels sont ses secrets et quels sont ses potentialités en matière de gouvernance dans le monde, quelle est leur importance dans le monde, toujours en nous fondant sur le livre de Farid Hammer qui s'appelle Le Ku Klux Klan aux éditions Pluriel. L'empire de la haine et de l'intolérance. Les statuts du Ku Klux Klan sont ceux d'une société secrète. Depuis sa fondation, son pouvoir d'attraction ou de répulsion repose autant sur le mystère qui entoure ses rites que sur les supposés liens indéfectibles unissant ses membres. Son état d'esprit sectaire procède de son ésotérisme. Car si le modèle qui a présidé à sa naissance a été celui des confréries étudiantes, ses origines maçonniques ont très longtemps échappé à l'analyse des historiens. Et pourtant, la corrélation ne saurait être assez soulignée. L'organisation lui doit le socle sur lequel elle a bâti sa renommée et son succès. Alors, Farid Hammer, là, quelque part, sans vraiment le faire de manière très ouverte, il fait une analogie entre le Ku Klux Klan et d'autres sociétés secrètes. Il nous parle des sectes, puisqu'il nous dit qu'il y a des dérives. Il nous dit qu'il y a un côté sectaire dans le Ku Klux Klan. Et il nous parle aussi de manière tout à fait détournée et peut-être même sans s'en rendre compte un petit peu de la franc-maçonnerie parce que effectivement dans la franc-maçonnerie il y a des rites, il y a des symboles qui sont très forts, il y a une force, une puissance assez importante de la force symbolique et donc c'est très important. C'est très très important c'est très important d'évoquer de faire cette analogie là puisque on sait que la franc-maçonnerie est importante dans le monde et on sait aussi qu'il y a des sectes qui sont très importantes avec des dérives sectaires très importantes et donc je pense que le Ku Klux Klan fonctionnant un peu sur le même mode. Il faut savoir comprendre la manière dont il fonctionne pour peut-être mieux le contrer. À l'instar de beaucoup de leurs compatriotes de bonne famille, les membres fondateurs du clan, passés à la postérité sous le nom des Six Immortels de Pulaski, sont tous affiliés à la franc-maçonnerie. Certains y exercent des fonctions importantes. En fréquentant avec assiduité les loges fraternelles du Tennessee, ils en ont assimilé les codes, les rites initiatiques, les règles et les serments destinés à convaincre l'impétrant qu'il fait partie d'une élite, d'une caste privilégiée. Ils ont saisi l'attrait du mystère et le goût du secret qui anime ses adeptes. En clair, la franc-maçonnerie leur a donné l'exemple d'un fraternalisme organisé et codifié, dont ils ont mesuré à la fois la force et le pouvoir de séduction. Le modèle des confréries étudiantes, lui, se rattache chez eux à des souvenirs de jeunesse, au désir de se divertir dans la plus complète insouciance et d'échapper à une existence morose. À l'origine, importe-t-il de rappeler, le Ku Klux Klan n'avait pas vocation à devenir une organisation terroriste. Il devait être une confrérie restreinte à un petit groupe d'initiés unis par un esprit de caste et un rituel secret capable de prolonger dans la vie civile les lieux de camaraderie nés sur les champs de bataille. Ni plus ni moins. Le Ku Klux Klan insiste sur le caractère fraternel de ses structures et de sa philosophie. On en est ou on n'en est pas. En devenir membre équivaut à un engagement humain et moral. Au moment de son initiation, le nouvel adhérent fait le serment solennel d'être toujours loyal envers l'organisation et de venir en aide à ses frères en toute occasion, à moins qu'il ne se soit rendu coupable de trahison. Les Klansmen se définissent en effet comme des frères, comme les membres d'une même famille, solidaires les uns des autres et prêts à payer de leur personne en toutes circonstances. À l'image de l'univers des loges maçonniques, les éléments jugés les plus méritants par leur père sont couverts de distinctions honorifiques, de titres fantaisistes et impressionnants. Les contrevenants au règlement, en revanche, s'exposent à des sanctions et encourent le risque d'être démis de leurs fonctions, voire d'être exclus. Les membres du clan forment une communauté à part entière. Le regard des autres pèse sur chacun d'entre eux. Quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérarchie fantasmée de l'Empire invisible, ils n'ont de cesse de rendre des comptes et de devoir prouver par leurs faits et gestes leur degré d'appartenance à la société secrète. En outre, des codes, des gestes et des mots de passe forment autant de signes de reconnaissance qu'il faut constamment renouveler pour se prémunir contre des intrusions éventuelles. C'est dire si le maintien de la confrérie dépend en grande partie de la loyauté et de la discrétion de ses initiés. Les liens unissant les membres de l'organisation se sont renforcés au fil du temps. En ressuscitant le clan en 1915, Simons a souhaité faire du fraternalisme la principale marque de fabrique de la société secrète. À cet effet, ses agents recruteurs ont infiltré les loges maçonniques, les clubs et les groupements patriotiques qui faisaient alors de l'américanisme à 100% leur cheval de bataille. Le sorcier impérial a fait appel aux hommes de bonne volonté, désirant s'élever au point de vue moral et fortifier leur âme pour le bienfait de tous. Consignés dans un manuel appelé le Cloran, les rituels donnent à chacun le sens de son importance et celle de la communauté. Ils encouragent les Klansmen à cultiver un esprit de corps, à vivre en vase clos. Dans l'absolu, la communauté ne doit regrouper que les seuls sympathisants de l'ordre. On vit, on prie, on travaille ensemble. On conclut des affaires en priorité avec ses frères de sang. On se retrouve autour d'agapes fraternelles, d'événements sportifs, de parties de chasse et d'exercices de tir. On assiste au mariage et aux enterrements des siens. Lorsque le malheur s'acharne sur l'un d'eux, ses camarades mettent aussitôt sur pied des collectes pour lui venir en aide. S'il décède, on se fait un devoir de veiller sur sa veuve et sa progéniture. La tendance s'est encore accentuée après la désagrégation. Pour entretenir l'illusion d'une Amérique blanche et protestante, des groupes ont pris le parti de vivre reclus dans des endroits reculés, des ghettos blancs, pour reprendre l'expression du sociologue américain Peter Young. Ces irréductibles fraternisent uniquement avec les leurs, transmettent les idéaux du clan à leurs enfants, favorisent les unions familiales et utilisent la propagande interne pour se tenir informés des nouvelles de l'extérieur. Alliés avec des groupes néo-nazis et survivalistes, parfois avec des associations de miliciens, ils forment les éléments les plus violents de l'Empire invisible. Leur organisation paramilitaire témoigne de leur détermination. Leur camaraderie, quant à elle, ne connaît pas de limites. D'après la propagande arienne, elle doit être celle de frères d'armes engagés corps et âme dans la guerre des races. Donc là, c'est très important à expliquer, à montrer, c'est que dans le Ku Klux Klan, il y a des rites et des liens de fraternité qui se nouent entre les membres, un peu comme dans la franc-maçonnerie, ou aussi un peu comme dans la mafia. Ça fonctionne comme ça, ce sont des groupes qui ont une certaine identité, qui se regroupent entre eux et entre lesquels se nouent des relations de fraternité, des relations permettent de l'entraide, qui permet, et puis il y a des signes de reconnaissance entre individus et entre membres. Donc ce sont des gens qui se mettent volontairement à part. C'est assez dangereux, je trouve. C'est un phénomène qu'on remarque déjà dans le fonctionnement de la mafia, mais aussi peut-être un petit peu dans la franc-maçonnerie, dans une certaine mesure, ainsi que dans les sectes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se regroupent en communauté, qui ont des points communs, des signes d'identité qui leur permettent de se regrouper entre eux, et que à partir de là, ces gens-là se regroupent et ils arrivent à créer un monde à part, un monde qui leur est particulier et qui peut être dangereux parfois pour la société, puisqu'ils se mettent à la fois, ils se mettent en dehors de la société et de son fonctionnement, et par les liens qu'ils nouent entre eux, ils rejettent forcément le reste de la société. C'est flagrant avec le Ku Klux Klan, chez qui il y a un évident rejet de tout ce qui est différent, les Noirs, les Juifs et d'autres communautés. Et puis c'est le cas aussi avec la mafia. J'ai lu plusieurs ouvrages d'auteurs italiens, de sociologues italiens, qui montrent que, effectivement, il y a en Italie les groupes issus de la mafia font leurs propres lois, ont leur propre économie, leur propre vision du politique, et que chez eux, en fait, ils sont pratiquement un État dans l'État. Et donc, à chaque fois, il y a, pour les sectes, c'est aussi la même chose. Et dans une certaine mesure, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que... Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que il y a certaines loges franc-maçonniques privilégient leurs membres aux dépens d'autres personnalités qui sont dans la société, et que donc c'est dommage parce que ça empêche la société de fonctionner correctement, et ça crée des privilèges pour certaines catégories de membres issus de la franc-maçonnerie, et donc forcément ça abîme notre monde politique. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu pourquoi il y a lieu de se plaindre de ces groupes et de les remettre, de peut-être essayer d'inventer, de redéfinir les rapports sociaux afin de les intégrer sans les dénaturer, mais en leur interdisant de continuer à créer des groupes qui auraient leurs propres lois et leurs propres droits au sein même de la société, des lois et des droits et des principes qui se mettraient en contradiction avec le droit tout court. C'est flagrant avec la mafia, qui a pratiquement son droit à elle, qui protège les populations, mais qui souvent se met en contradiction avec le droit du pays ou de la région dans laquelle elle évolue. Et je parle là de toutes les mafias du monde. C'est la même chose pour le Ku Klux Klan ou pour les sectes. Pour entretenir l'illusion d'une Amérique blanche et protestante, des groupes ont pris le parti de vivre reclus dans des endroits reculés. Des ghettos blancs, pour reprendre l'expression du sociologue américain Peter Young. Ces irréductibles fraternisent uniquement avec les leurs, transmettent les idéaux du clan à leurs enfants, favorisent les unions familiales et utilisent la propagande interne pour se tenir informés des nouvelles de l'extérieur. Alliés avec des groupes néo-nazis et survivalistes, parfois avec des associations de miliciens, ils forment les éléments les plus violents de l'Empire invisible. Leur organisation paramilitaire témoigne de leur détermination. Leur camaraderie, quant à elle, ne connaît pas de limites. D'après la propagande aryenne, elle doit être celle de frères d'armes engagés corps et âme dans la guerre des races. Le caractère fraternel de l'organisation repose également sur l'amour du drapeau. Les clansmen partagent l'idée d'un patriotisme exacerbé, de la supériorité de la civilisation américaine. À l'issue de son initiation, qui fait pourtant penser à l'acquisition d'une nouvelle citoyenneté, l'impétrant fait le serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis. Donc là, c'est important aussi, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ces groupes qui créent leur propre droit qui se met en opposition avec le droit du pays dans lequel ils évoluent, sont des groupes qui en même temps reprennent des symboliques propres à la société elle-même. Par exemple, ils vont reprendre des symboliques propres à la société américaine et jurer sur la Constitution. Donc, ils font, quelque part, ils font un peu du chantage à la société en lui faisant croire qu'ils sont de son côté, alors qu'en fait, non, puisque en fait, ce qui prime, le liant social, c'est d'abord le droit. Je viens de voir le film Killers on the Flower Moon de Martin Scorsese. Et dans ce film, on montre bien que c'est un film qui raconte l'histoire. Mais justement, en plus, c'est marrant parce que c'est exactement à l'époque. À l'époque où le Ku Klux Klan sévissait, puisque d'ailleurs on voit les personnages du film à un moment donné regarder les informations au cinéma, et on leur montre une tuerie qui a détruit complètement un quartier noir aux États-Unis. Et donc en fait, l'histoire de Killers of the Flower Moon, c'est un film qui raconte l'histoire de ces Indiens Osages qui ont découvert, à qui les Blancs avaient légué un territoire qu'ils ne pensaient pas intéressant pour qu'ils y aillent y installer leurs réserves. Et en fait, ils y découvrent un gisement de pétrole et ils deviennent très riches. Et ça raconte comment les Blancs sont parvenus petit à petit à s'immiscer dans la vie des Indiens Osages. Et par les détruire, les Blancs se marient avec les femmes et on tue. Il y a beaucoup d'Indiens Osages qui décèdent. Et en fait, le FBI, Federal Bureau of Investigation, envoyé par Hoover, y va. Et fait son enquête et on finit par arrêter les coupables. C'est Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui jouent dans les rôles des méchants, donc des Blancs qui font croire aux Indiens qui sont leurs amis, et alors que le but c'est de leur prendre leur argent et rien d'autre. Et notamment, ils y arrivent notamment grâce au mariage. Il y a beaucoup de Blancs qui ont épousé des femmes indiennes pour ensuite les assassiner et leur prendre leur argent. Et donc voilà, et en fait, à la fin, la leçon de l'histoire, c'est que le Federal Bureau of Investigation, c'est ce qui a permis à Hoover, d'ailleurs, de devenir aussi important, on fait régner le droit et la loi, et c'est le droit et la loi qui a raison en dernière limite, et ce qui compte, ce n'est pas la société des Blancs, mais bien la société américaine dans son ensemble, qui comprend aussi bien les Blancs que les Noirs, que les Indiens, que les Latinos. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire du film, qui est un film très bien fait, je le conseille à tout le monde d'aller le voir. Voici. Donc, pourquoi j'ai fait ces petits apartés? Oui, c'était pour expliquer que le droit, c'était le droit qui prédominait toujours, Et qu'on avait beau jurer sur la Bible et faire croire qu'on était américain, si on ne respecte pas le droit américain qui interdit le meurtre, par exemple, ou la corruption, eh bien on ne peut pas être américain. Le caractère fraternel de l'organisation repose également sur l'amour du drapeau. Les Klansmen partagent l'idée d'un patriotisme exacerbé, de la supériorité de la civilisation américaine. À l'issue de son initiation, qui fait pourtant penser à l'acquisition d'une nouvelle citoyenneté, l'impétrant fait le serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis. Certes, par le passé, ces bonnes dispositions n'ont pas empêché le Klan de s'opposer à l'exécution de plusieurs lois, surtout lorsque celles-ci émanaient du pouvoir fédéral. Son combat contre la désagrégation et son rejet de l'avortement en sont des illustrations. Ses convictions nationalistes, à vrai dire, se rattachent à une certaine vision de l'Amérique, celle d'un pays fondé par et pour la race blanche, avec la bénédiction divine, farouchement attachée au principe de l'autodétermination et dans lequel les valeurs puritaines imprégneraient la société dans son ensemble. Sa référence en la matière reste la Confédération esclavagiste du Sud, 1861-1865, dont la bannière continue aujourd'hui de flotter en mains endroits et d'accompagner les Klansmen à chacun de leurs pas. Qu'on ne s'y trompe pas, de nos jours, l'exaltation de l'héritage sudiste est aussi bien pour le clan un moyen d'entretenir avec nostalgie le mythe de la cause perdue que de manifester sa méfiance viscérale à l'égard du gouvernement central de Washington. C'est fidèle, convient-il, de souligner, se présente avec fierté comme l'avant-garde des patriotes, les champions de l'américanisme, dont la mission est de purifier le sanctuaire de leurs aïeux. La société secrète ne s'est jamais targuée de compter dans ses rangs des célébrités. À cela, rien de surprenant. Les principes fondateurs du clan garantissent de plein droit à ses membres l'anonymat le plus complet. Le serment d'adhésion impose en outre aux Klansmen le devoir de ne jamais divulguer l'identité de leur père. En théorie, toute trahison est assimilée à un crime punissable de la peine de mort. Les listings des adhérents sont tenus rigoureusement secrets. On a vu en décembre 2015 le fiasco de l'opération Hop KKK, lancée par le groupe de piratage informatique Anonymous, la liste de 1000 noms qu'il a fournis contenant de grossières erreurs d'identification. Par le passé, cependant, le secret n'a pas toujours été bien gardé. Malgré toutes les précautions et les professions de foi, des fuites sont parvenues à la connaissance des autorités. Le FBI, quant à lui, a bénéficié en la matière du concours de ses agents infiltrés. Des fidèles ont affirmé sans état d'âme leur appartenance à l'Empire invisible. Les historiens ont épluché des sources qui ne laissent aucun doute quant à l'identité de certains membres. Aussi sait-on aujourd'hui avec certitude que de nombreuses personnalités publiques ont jadis adhéré au Ku Klux Klan. La liste noire des Klansmen les plus célèbres commence selon toute vraisemblance aux plus hautes instances de l'État. Fait peu connu, la société secrète aurait été jusqu'à admettre dans ses rangs des présidents américains. En 1921, alors qu'il vient d'entrer en fonction, Warren Harding aurait ainsi été intronisé par le sorcier impérial William Simmons en personne, à l'issue d'une cérémonie secrète tenue dans le salon vert de la Maison Blanche. Son successeur, Coolidge, pourrait lui aussi avoir rejoint le clan au début de son mandat, avant de s'en détourner. Dans un extrait de ses mémoires, Harry Truman avouera de son côté avoir brièvement adhéré à l'organisation en 1922 pour lancer sa carrière politique dans le Missouri. Mais s'il reconnaît avoir versé sa cotisation à des fins purement électorales, il se défendra toujours d'avoir assisté à la moindre cérémonie rituelle et d'avoir épousé l'idéologie de la confrérie. La propagande de l'Empire invisible a gagné d'autres personnalités du monde politique. À commencer par la Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute juridiction du pays. L'appareil judiciaire fédéral a compté deux Chiefs of Justice affiliés au Ku Klux Klan à différentes époques. À la fin du XIXe siècle, le juge Edward White, originaire de Louisiane et vétéran de l'armée confédérée, a participé aux exactions perpétrées par l'organisation à la Nouvelle-Orléans en 1868. Il est à l'origine de l'arrêt Plessy contre Ferguson, qui a légalisé la ségrégation en 1896. Le juge Hugo Black a lui aussi adhéré à la société secrète avant sa nomination à la Cour suprême en 1937. Né dans l'Alabama, il a défendu de nombreux Klansmen devant les tribunaux et s'est affiché à plusieurs reprises avec le sorcier impérial Hiram Evans. Passé dans les rangs des libéraux au moment de l'élection de Roosevelt, il a exercé ses fonctions jusqu'en 1971. La liste s'allonge à d'autres niveaux de responsabilité. Augustus Garland, ministre de la Justice, attorney général du président Cleveland, a été le grand dragon de l'Arkansas pendant la Reconstruction. Au début des années 1920, l'influence du clan en politique a été telle qu'il a fait élire un total de 11 gouverneurs et envoyé siéger à Washington 75 représentants et 16 sénateurs. Certains de ces élus n'ont jamais caché leur appartenance à la confrérie. Parmi d'autres, David Graves, Clifford Walker et Theodore Bilbo, respectivement gouverneurs de l'Alabama, de Géorgie et du Mississippi, ont continué à adhérer à l'organisation alors qu'ils étaient en exercice. Edward Jackson et Clarence Morley, leurs collègues de l'Indiana et du Colorado, n'ont pas agi autrement. Des dizaines de membres du Congrès en ont fait autant pendant la durée de leur mandat. Robert Byrd, sénateur démocrate de la Virginie-Occidentale jusqu'à sa mort en 2010, a quant à lui choisi de renier son passé de Klansman pour les besoins de sa carrière. Ancien agent recruteur du clan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse dont le souvenir le hantera jusqu'à la fin de ses jours. À l'échelle des États fédérés, enfin, on ne compte plus le nombre de membres avérés ou supposés de l'ordre. Le plus célèbre et le plus engagé dans le combat des suprématistes blancs est sans aucun doute David Duke, qui a exercé les fonctions de directeur national des chevaliers du Ku Klux Klan de 1975 à 1980. Donc il a été longtemps présent aussi dans la vie politique américaine. Chef de file du Parti populiste, il a été candidat à la présidence des États-Unis en 1988, mais n'a recueilli au final que 47 000 votes. Ce revers ne l'a pas empêché de remporter l'année suivante un siège de député au Congrès de la Louisiane. En vain a-t-il ensuite tenté d'accéder à de plus hautes fonctions au sein de ce même État. En 1990, il a brigué un poste de sénateur. Échec. En 1991, Duke a fait campagne pour devenir gouverneur. Il a été battu, mais non sans avoir obtenu les suffrages de la moitié des votants blancs. De nombreux démêlés avec la justice, qui l'ont d'ailleurs conduit en prison, ont freiné sa carrière politique. Deux autres échecs électoraux, en 1996 et en 1999, ne l'ont pas désarmé. Son ton provocateur et ses thèses négationnistes continuent à attirer l'attention des médias. Occupé à ses activités éditoriales, il ne désespère pas de rallier les forces aryennes dans le monde. D'autres fidèles ont laissé leur nom dans l'histoire du clan. Pendant la Reconstruction, l'ordre a compté parmi ses membres Albert Pike, explorateur, avocat et écrivain. Très certainement franc-maçon le plus célèbre de son temps aux États-Unis, il a porté le titre de souverain grand commandeur du rite écossais, dont il a écrit les rituels en 1859. Asa Ace Carter n'est pas non plus un inconnu pour les amateurs du folklore de l'Ouest américain. Sous le pseudonyme de Forrest Carter, cet auteur de l'Alabama a publié des ouvrages salués par la critique du monde entier, dont Petit Arbre et Pleure Geronimo. Un de ses titres, La vengeance de Josey Wales, a été porté à l'écran par Clint Eastwood en 1976. Son passé de Klansman, en revanche, est beaucoup moins connu. Cet ancien animateur de radio, congédié pour avoir tenu des propos antisémites à l'antenne, a appartenu au noyau dur de l'organisation. Lui-même a fondé un groupuscule responsable du tabassage sur scène du chanteur noir Nat King Cole à Birmingham en avril 1956. Au cours d'une rixe mémorable, il a blessé deux de ses propres hommes qu'il accusait d'abus de pouvoir. En 1963, il s'est engagé au service de George Wallace, élu gouverneur de l'Alabama. On lui doit notamment le célèbre discours d'investiture du politicien sur la nécessité absolue de maintenir la ségrégation. Voilà, donc ce sont des hommes qui sont restés longtemps dans la vie politique française. Je citerai le dernier. Outre Timothy McVeigh, auteur de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, deux autres activistes sont apparus sous les feux de la rampe. D'abord, le catcheur professionnel Johnny Angel, de son vrai nom Johnny Lee Clary, ancien garde du corps de Duke et peut-être grand dragon de l'Oklahoma, pour les chevaliers du Ku Klux Klan. Repenti, il s'est depuis tourné vers les évangélistes et milite à présent pour les droits des minorités. Enfin, le clan a compté parmi ses membres actifs Joseph Paul Franklin, le célèbre tueur en série qui a sévi aux États-Unis à la fin des années 70. Arrêté en 1980 et condamné à la prison à vie, ce disciple de l'Empire invisible s'est rendu coupable de 20 meurtres, surtout des noirs, des juifs, des couples mixtes et des prostituées. De 6 tentatives d'assassinat, dont celle du pornographe Larry Flint en 1978, de 16 braquages de banque et de 2 dynamitages. Décédé en 2013, il est toujours révéré comme un héros par plusieurs groupes néo-nazis. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre... on va passer un peu de musique et j'ai choisi ce soir le groupe Aerosmith. Voilà. On va mettre un titre d'Aerosmith qui s'appelle I Don't Want to Miss a Thing. Je vous laisse écouter.
I don't wanna miss a thing, 'cause even
Voilà, c'était Aerosmith. J'ai choisi de mettre cette chanson-là parce que Aerosmith, c'est un de mes groupes préférés. Et je trouvais que ça allait bien. C'est un peu aussi l'Amérique. Voilà. Donc, je continue encore un petit peu. Le Ku Klux Klan renvoie l'image d'une Amérique raciste, d'un pays qui tarde à se débarrasser de ses vieux démons. De la Floride au Montana, en passant par l'Oklahoma et l'Indiana, il rappelle que des Américains de race blanche, d'origine anglo-saxonne et de confession protestante, ont décidé de s'opposer par tous les moyens au multiculturalisme, coupable selon eux de mener la nation à la faillite. Sans la moindre ambiguïté, leur idéologie fait l'apologie de la haine. Derrière leur discours chauvin, les membres de la société secrète assument totalement leur racisme, leur intolérance religieuse et leur xénophobie. À leurs yeux, les États-Unis ne manquent pas d'ennemis de l'intérieur, prêts à toutes les audaces pour dépouiller le patrimoine national et prendre la direction des affaires publiques. Pour le camp, le clan, le principal danger, c'est bien évidemment l'homme de couleur. Car l'organisation a fait du principe de la suprématie blanche son leitmotiv et sa raison d'être. Les Noirs prétendent les Klansmen sont des êtres inférieurs. Ils descendent de la lignée de Cham, maudite et vouée au servage par Noé. Incapables de progrès, ils ne pourraient pas être excités au travail que par des moyens coercitifs, d'où la légitimité de leur réduction en esclavage. À cela s'ajoutent de solides préjugés, leur couleur de peau évoquerait une nature sombre et vicieuse, et à moins d'être subordonnés aux blancs qui occupent la position dominante dans la hiérarchie des races, conçue par Dieu, les Noirs retomberaient dans un état de barbarie. Rien ne serait plus nuisible à la société américaine, assure la propagande du Ku Klux Klan, que de les laisser se livrer à leurs bas instincts. Aussi bien encline à la maraude qu'au pillage, la population de couleur, entendant se venger des 3 siècles d'asservissement qu'ont subi leurs ancêtres, paresseuse et insolente, elle ne fait recette que dans la délinquance et la provocation. Principale bénéficiaire des programmes d'aide sociale, elle est accusée de dilapider les fonds publics. La psychose sécuritaire repose en outre sur un délire paranoïaque qui remonte au temps de la guerre de sécession. D'après la rumeur populaire, les Noirs seraient ainsi attirés par les Blanches et n'auraient aucun scrupule à recourir au rapt et au viol pour assouvir leur fantasme. S'ils trouvent des femmes consentantes, une nation de sang mêlé, c'est-à-dire des dégénérés, ne tardera pas à naître au mépris des lois prétendument naturelles qui interdisent le mélange des races. Le pays ne s'en relèverait pas. Aussi, dans cet étalage de thèses racistes, la mission du clan consisterait à préserver le pays du péril noir en rejetant bruyamment les principes de la mixité et de l'égalité raciale. D'ailleurs, s'il admet que les Noirs ne sont pas étrangers à la patrie et qu'ils sont pour la plupart des descendants d'esclaves emmenés de force d'Afrique, il leur refuse une place dans le grand corps national. Coûte que coûte, les États-Unis doivent rester le pays de l'homme blanc. Le Ku Klux Klan nourrit également de violents diatribes contre le catholicisme. Les membres de l'Empire Invisible soutiennent une interprétation littérale des Saintes Écritures et de la tradition chrétienne. Pour ces fondamentalistes qui se croient investis d'une mission divine, la défense d'un protestantisme rigoureux reste la principale valeur de l'américanisme. Aussi, l'Église catholique leur inspire-t-elle un sentiment d'effroi et de répulsion. D'abord parce que ses fidèles sont chaque jour plus nombreux, qu'ils se recrutent essentiellement parmi la masse des immigrants et qu'ils forment maintenant la première communauté religieuse aux États-Unis. Ensuite parce que le pape est un souverain étranger qu'on lui reproche de vivre dans le faste et de vouloir susciter des divisions dans les milieux protestants. Nombre de Klansmen redoutent d'autant plus sa personne qu'il est puissant et exerce son action à l'échelle internationale. Le reste du corps ecclésiastique n'échappe pas à leurs critiques acerbes. Ceux qui vivent à l'ombre de la bannière étoilée sont assimilés à des suppôts de Rome, une sorte de cinquième colonne qui aurait entrepris de romaniser l'Amérique et contre laquelle il faut décréter l'union sacrée. Les croyants, eux, sont des papistes, des êtres faibles et corrompus, totalement dépourvus de fibres patriotiques et d'idées morales. Somme toute, si certains clans ne pratiquent plus aujourd'hui l'exclusion systématique comme par le passé aux grandes dames du noyau dur de l'organisation, les catholiques ne sont généralement pas les bienvenus dans les rangs de la société secrète. Donc tout ça pour dire que ce passage fait beaucoup penser à ce qui se passe en ce moment. J'avais vu une conférence qui avait été organisée dans le cadre de l'association, une association de relations, par l'IRIS, l'association des relations internationales, et cette conférence portait justement sur la puissance de l'église pentecôtiste, des églises protestantes en Amérique, dans le monde, pardon, mais notamment en Amérique du Sud, où c'est très spectaculaire, et ça c'est en fait, ces gens-là, c'est l'église pentecôtiste qui vient de l'Amérique du Nord, c'est cette église des blancs, des white, des WASP, des white anglo-saxon protestants, ces gens-là qui ont, parmi lesquels il y a eu des fondateurs et des membres du Ku Klux Klan. Et cette église-là est très puriste, puritaniste. C'est par exemple elle qui interdit l'avortement ou qui préconise l'abstinence sexuelle chez les jeunes. Et cette Amérique-là, elle est allée évangéliser l'Amérique du Sud. Alors il y a eu des portes. Les Blancs ont d'abord évangélisé l'Amérique du Sud une première fois lorsqu'ils sont arrivés sur les terres américaines et qu'ils en ont chassé les Indiens. Et en voulant les évangéliser et qui les ont assassinés en voulant les évangéliser. Et puis une deuxième fois dans les années 2000, grâce à coups de millions de dollars et de multinationales, on a fait beaucoup de mal aux Indiens d'Amérique. On a fait beaucoup de mal aux pays latinos où il y a eu un objectif. Là où autrefois pratiquement 90% des latino-américains, tous pays confondus, étaient papistes, on va dire, comme on dit dans le jargon du Ku Klux Klan, c'est-à-dire que catholiques, à proprement parler, donc adhérents de l'Église du Vatican, eh bien, aujourd'hui, ces 90% ont disparu. Et c'est l'Église pentecôtiste qui prime. Et les latinos sont à 90% pentecôtistes. Le pape voyageait beaucoup. Autrefois, quand le pape allait au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, les gens, les foules étaient en liesse, suscitaient beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contents. Et maintenant, c'est devenu un petit peu moins important pour ces gens-là, puisque c'est l'Église pentecôtiste qui a récupéré tous l'essentiel des suffrages. Donc on sait maintenant qu'il y a le Ku Klux Klan, et derrière beaucoup de multinationales et beaucoup de flux financiers importants qui empêchent le monde d'être beau, hein, on va le dire tout simplement, il y a souvent le Ku Klux Klan aussi. Le cas des Juifs suscite moins de controverses. Chez la plupart des membres du clan, l'antisémitisme tourne à l'obsession. Si l'on en croit leurs œuvres de propagande, les Juifs seraient tous d'ignobles capitalistes liés les uns aux autres par des réseaux mafieux. Les Klansmen ne manquent jamais l'occasion de dénoncer les agissements de la finance juive internationale et leur complot pour faire main basse sur le monde chrétien. Ils brandissent à l'occasion les protocoles des sages de Sion comme la preuve irréfutable des sombres desseins de la communauté juive. Depuis les années 1970, l'alliance du clan avec les groupes néo-nazis n'a fait que durcir ce discours antisémite. Beaucoup, comme David Duke, continuent à défendre des thèses négationnistes. D'aucuns vont jusqu'à proposer l'extermination de la peste juive en Amérique. En confisquant le grand capital, les Juifs auraient pris le pouvoir économique à New York et politique à Washington, où siège le gouvernement d'occupation sioniste. Voilà les responsables, ajoutent les dirigeants du clan, des malheurs qui ont frappé les États-Unis, de la Grande Dépression aux attentats du 11 septembre 2001. Autant de raisons pour les forces aryennes, en tant que dépositaires des camps des idéaux américains, de s'aligner en ordre de bataille. À la vérité, la propagande de l'Empire invisible n'épargne aucune minorité ethnique ou religieuse. Des brochures les dépeignent sous des traits diaboliques. L'Église mormone est perçue comme une secte subversive, une organisation puissante dont il convient de se méfier. Les musulmans, eux, ne sont pas seulement les ennemis héréditaires du monde chrétien. À l'ombre des mosquées, ils soutiennent les réseaux terroristes engagés dans la guerre contre l'Amérique. Hindouistes et bouddhistes sont accusés de prosélytisme. Ils répandent en Amérique un rituel qui est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas tout. La xénophobie, cette indéracinable haine de l'étranger, se superpose au clivage religieux. Les immigrants, estiment les Klansmen, ne se sentent plus à l'aise d'où qu'ils viennent. Ils abusent de la généreuse hospitalité qui leur a été accordée en apportant leurs us et coutumes. Sur le marché du travail, de surcroît, ils représentent une concurrence déloyale en acceptant des salaires misérables. De la Floride à la Californie, les Hispaniques et les Asiatiques s'isolent et se pervertissent l'esprit américain. Les Africains et les Orientaux n'agissent pas autrement. En somme, le melting pot n'est qu'un vain mot. Incapable de contenir l'invasion étrangère, le pays se trouve en état de siège. Aussi, le Ku Klux Klan entend-il donner la chasse aux clandestins le long du Rio Grande. Ses dirigeants répètent que les États-Unis ne sont plus le refuge des déshérités de la planète. Cette philosophie de l'exclusion repose sur l'idée que l'Amérique fait l'objet d'un complot quasi apocalyptique. Le monde entier lui envierait en effet sa puissance, sa vitalité, ses institutions. Ses ennemis auraient juré de provoquer sa perte et de se partager ses dépouilles. Pour le clan, l'image de la citadelle assiégée est d'actualité. Donc on voit très bien qu'il y avait derrière George Bush lorsqu'il parlait de faire des croisades, lorsqu'il y a eu les attentats des Twin Towers. Partout sur le territoire, elle trame quelque chose, et surtout quand il y a eu la guerre contre l'Irak. Les Cubains ne sont-ils pas très nombreux en Floride? Les Mexicains ne le sont-ils pas encore davantage au Texas? Que dire des Asiatiques en Californie? Enfin, les Juifs ne tiennent-ils pas les cordons de la bourse? Le délire collectif s'est accru après les attentats du 11 septembre 2001, qui ont révélé la vulnérabilité des États-Unis. Dans une Amérique bouleversée, en proie à une flambée de patriotisme et affolée par la menace terroriste, les Klansmen ont cru pouvoir accréditer leur thèse du complot mondial. À leurs yeux, il n'y a pas de doute possible. Le géant américain, colosse au pied d'argile, a plus que jamais besoin de l'empire invisible pour redresser la tête et prouver à ses ennemis qu'il n'a rien perdu de son panache. Voilà, on va s'arrêter là. C'est juste que pour dire que tout ce qu'on vient de dire et de lire du livre de Farid Hammer, le Ku Klux Klan, ça traduit un certain nombre de choses qui restent quand même, qui sont quand même très intéressantes. Et notamment que derrière ces choses-là, et que ces choses-là sont très explicatives de la géopolitique actuelle et de la réaction des États-Unis dans le monde, et de leur engagement, de la voie qu'ils ont choisie dans le monde et de leur stratégie. Donc, on en reparlera. Ça, c'est la conclusion. Enfin, on voit bien que les États-Unis, souvent, ont tendance à s'auto-protéger ou à se faire valoir en tant que shérif du monde. Et derrière tout ça, il y a un peu de l'idéologie du Ku Klux Klan. Et quand je disais tout à l'heure qu'ils avaient baigné dans les milieux politiques, et l'auteur Farid Hammer nous montre bien que certains présidents américains ont été membres du Ku Klux Klan, ou du moins, à défaut d'en être membres, s'en sont rapprochés, eh bien, on n'est pas loin de ce que je viens d'expliquer. Voilà. Nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui par deuxième chanson d'Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Je vous souhaite... Ah, attendez, je me demande si on n'a pas déjà passé celle-ci. Non, c'est moi qui me suis trompée. On a déjà passé I Don't Want to Miss a Thing. Cette fois-ci, on va passer Dream On. À très bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. Passez une excellente semaine. Au revoir. Everybody got the dues and I'm available.
from sages.